ne suis pas de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde, mais je suis de ceux qui pensent et affirment qu'on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli.
Loin d'être une allégeance à un quelconque référent littéraire, nous retenons du père Hugo le meilleur de ce bourgeois éclairé, qui traversa son siècle en s'arrangeant avec son éducation monarchique, passant par les honneurs d'un pair de France jusqu'à l'idéal républicain. Ce réformiste, témoin magistral des soubresauts civils et de la naissance du prolétariat, a su faire parler son époque.
Messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir où elle en est, la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Comment veut-on guérir le mal si l'on ne sonde pas les plaies?
Les plaies ouvertes à la hache à l'église Saint-Bernard, les plaies périphériques entendues comme dommages, collatéraux, les stigmates de la honte, de Sangatte à Cachan. Les mêmes cicatrices s'ouvrent encore, puisque jamais refermées. Il y a l'idée, il y a la question, et il y a les faits.
Voici donc ces faits. Il y a dans Paris, je n'hésite pas à les citer, ces faits tristes mais nécessaires à révéler, je voudrais qu'ils éclatent au grand jour. Il y a dans Paris, il y a des rues, des maisons où des familles entières vivent pêle-mêle et n'ayant pour lit, pour vêtements que des chiffons infects ramassés dans le fumier des villes, où des créatures humaines s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voici d'autres. Ces jours derniers, un homme est mort de faim à la lettre. On a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Voulez-vous autre chose? Le mois passé, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes des charniers de Montfaucon. Eh bien, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute son intelligence et sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière. Je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, mais que ce sont des crimes. Je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, l'abolition de la misère. Je ne m'adresse pas à votre générosité. Je m'adresse à ce qu'il y a de plus sérieux dans le sentiment politique.
Le sentiment politique ?
J'accuse l'État, prétendu garant de faillir à ses devoirs, et les plus fondamentaux même, quand ce ne serait que ce instruit par la Déclaration des droits de l'homme stipulant que nous sommes tous égaux devant la loi. J'accuse cet état de fait dont la responsabilité revient à l'État. J'accuse la politique étatique de n'être que ce qu'elle est, une oligarchie politicarde à des années-lumière du sens politique du terme grec et dont la pratique serait au service de la cité. J'accuse le nationalisme érigé en front commun de pensée, de comportement et qui prône dans ses flatulences héro-ponctuelles l'exclusion, la discrimination, la manipulation, la domination, l'exploitation, l'effraction des consciences, l'infraction du droit social, économique, civil, pénal. J'accuse cette même oligarchie de nous contraindre à la pensée unique et télétrate par induction de planification culturelle, sociale, économique, historique.
Comme je vous le disais
tout à l'heure, vous venez avec le concours de l'armée et de toutes les forces vives du pays, vous venez de raffermir l'État.
Vous n'avez reculé devant aucun péril. Vous avez sauvé la société régulière, le gouvernement légal, les institutions, la paix publique. Vous avez fait une chose considérable. Eh bien, vous n'avez rien fait. J'insiste sur ce point. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui travaillent peuvent être sans pain, tant que ceux qui sont vieux peuvent être sans asile, tant qu'on meurt de faim dans nos villes, tant qu'il n'y a pas de loi fraternelle, vous n'avez rien fait. Je le répète, en terminant, ce n'est pas à votre générosité que je m'adresse, c'est à votre sagesse, et je vous conjure d'y réfléchir. Faites maintenant des lois contre la misère.
Invité récemment à un colloque de la Banque mondiale, dont le titre était
« La pauvreté, une atteinte aux droits de l'homme ».
J'affirme que, aujourd'hui, c'est la richesse qui est une menace pour les droits de l'homme.
Les rapports de domination sont ainsi faits, et 1789 n'y a rien changé. De la monarchie à la bourgeoisie, seul le vocabulaire change. Héréditaire, la bourgeoisie se consacre aussi en bourse. Tout comme l'aristocratie se faisait en cours. Que les cours soient monarchiques ou boursières, où est la différence pour nous et tous les autres, n'y ayant pas droit de citer? Qui n'en rêve de ces univers de facilité? Le loto, le gros lot, superbe d'abondance. Voilà qui réglerait tous les problèmes. La villa au bord de mer, le yacht à faire baver d'envie le voisinage, les serviteurs, les voitures, les usines, les terres, les biens, quoi.
Français? Faut de la maille. Peut pas être français avec moins de 1000 euros par mois, vieux. Français, faut de la place. Peut pas être français assis dans 40 mètres carrés. Français, faut du temps, mec. C'est pas en courant entre l'usine, les acédiques et la NPE que tu peux te poser pour la France.
On croit du nombre faire une identité. Un leurre, bien souvent. La misère est nécessairement et historiquement de classe. Loin de produire la fraternité, la misère produit de la misère et les dominants recrutent toujours parmi les classes inférieures pour réprimer les subversifs qui contestent leurs conditions.
Souhait d'universaliser des questions d'aujourd'hui. Le texte. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Écrit en 1848, fait résonner 160 ans plus tard. La constance de la lutte. Des écrits actuels, articulés autour d'extraits de Victor Hugo, parcourent cette expérience comme autant de miroirs. À réfléchir.
Alors, vous êtes toujours à Radio Centre-Ville 102.3 FM avec l'émission En bas à gauche et c'est notre chronique culturelle. En fait, vous venez d'entendre le premier mouvement d'un album intitulé « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent », un CD qui m'a complètement charmée et que je vous invite très chaudement à découvrir. Alors, comme les artistes l'expliquaient, il s'agit d'un projet de création artistique qui propose une réinterprétation des textes de Victor Hugo sur un fond de musique slam et abstract hip-hop. Alors, comme vous avez pu le constater dans le mouvement 1, la première pièce musicale, ça mêle des extraits de Victor Hugo et des textes originaux qui ont été inspirés par l'œuvre de l'auteur. Alors, ça touche différents thèmes abordés par Victor Hugo, soit la pauvreté et les injustices sociales, le travail et la consommation, la réalité en prison et, bien sûr, toujours la question de la résistance. Je vais laisser les artistes présenter eux-mêmes leur processus créatif en vous lisant un petit paragraphe qu'on retrouve sur leur album. Alors, ils disent « Loin d'être une allégeance à un quelconque référent littéraire, nous retenons du père Hugo, réformiste républicain et témoin magistral des soubresauts civils qui a su faire parler son époque, la veine revendicative de notre vouloir à vivre et donc à lutter. » Dans notre souhait d'universaliser les questions d'aujourd'hui, le texte « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent », écrit en 1848, fait résonner, 160 ans plus tard, la constance de la lutte d'hier à aujourd'hui, en imaginant nos lendemains. Relire et réinterpréter des textes de Victor Hugo au 21e siècle, ce n'est pas seulement rendre hommage à un immense artiste, c'est aussi s'interroger sur la capacité de la parole et de l'art à questionner le monde et proposer de nouvelles perspectives. En fait, moi, je vous dirais que les artistes ne font pas seulement s'interroger sur la capacité de la parole poétique à questionner le monde, mais ils nous en convainquent totalement parce que toute leur œuvre est vraiment un exemple illustrant de la portée des mots. Il y a une force très vive, très émouvante qui se dégage de cette musique et qui nous invite à faire partie de l'histoire, à vivre notre époque pleinement en tant qu'acteur social, avec nos mots, avec nos gestes, avec nos actions, puisque, comme le disait Victor Hugo, « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Alors, il faut dire également que je pense que l'originalité ou en fait la force de cette création musicale et littéraire relève en grande partie de la composition du collectif. C'est un quatuor d'artistes et de militants, des personnalités qui ont des parcours complètement différents. Alors, on a deux grands noms de la scène hip-hop française, Jamal et Julien Delmer. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jamal, c'est celui qu'on surnomme l'agitateur du rap en France, ancien membre de Cabal, qui a tourné entre autres avec le groupe Assassin. C'est une figure importante du mouvement de contestation sociale qui s'exprime par le hip-hop et il vient de sortir son premier album solo, Sociopathe. De son côté, Julien Delmer, c'est un slameur avant tout, mais également poète et auteur de pièces de théâtre, et c'est un militant engagé dans la lutte des sans-papiers en France. Pour celles et ceux qui s'intéressent à la poésie engagée, je vous recommande d'ailleurs son premier recueil de poésie. Il y en a déjà sorti trois, mais le premier est particulièrement très agréable à lire. Il s'intitule « Nègre ». Ça traite de l'histoire coloniale de la France et du racisme et de la lutte des sans-papiers en France. Ça a été publié en 2005 aux éditions Périplan. Donc, à côté des deux grands noms du hip-hop que sont Jamal et Julien Delmer, on a également Marie-Paul B., comédienne, clown et metteuse en scène. Et un autre très grand nom français, Charlie Boer, pardon, un personnage très particulier. C'est un docteur en anthropologie sociale, un acteur, un écrivain, et c'est avant tout pour les Français un militant d'extrême gauche qui s'est impliqué entre autres aux côtés du Front de Libération Nationale durant la guerre d'Algérie et qui a pratiqué durant de longues années la propagande par les faits en France. Il est connu particulièrement pour avoir longtemps organisé des actions d'expropriation de marchandises à Marseille, donc des vols en d'autres mots, de l'expropriation de marchandises, des détournements de trains pour ensuite redistribuer les richesses dans les quartiers pauvres de Marseille. Alors, vous serez pas surpris d'apprendre que, bon, ses idées politiques et ses actions directes lui ont valu 25 ans d'emprisonnement. 25 ans durant lesquels, en plus d'étudier, il a tenté 8 tentatives d'évasion. Et finalement, il sort de prison en 1988. Et 2 ans après, il publie son autobiographie « Fracture d'une vie », qui est vite devenue un best-seller en France. Donc, « Fracture d'une vie » de Charlie Baer. Donc, ce sont ces 4 parcours d'artistes et de militants qui se rencontrent dans le projet « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » et qui vraiment en font la force et la créativité. Et puis, enfin, bon, faut mentionner le travail de conception sonore qui a été réalisé par le DJ Boulaon. Donc, l'album est sorti en mai dernier en France. C'est sous licence Creative Commons, c'est-à-dire que c'est une licence libre. Les auteurs permettent la diffusion de leurs œuvres sans utilisation commerciale. Donc, les artistes vous invitent vraiment chaudement à visiter leur site web pour télécharger l'intégralité de l'album, les photos et tout. Donc, ça fait un excellent cadeau de Noël, pourquoi pas. Alors, vous pouvez visiter leur page, c'est myspace.com. www.myspace.com/ceux qui vivent. www.myspace.com /ceux qui vivent. Je vais vous laisser avec un deuxième morceau, en fait, qui s'intitule Mouvement 2, toujours de l'album Ceux qui vivent sont ceux qui luttent.
Où vont tous ces enfants? Pas un seul ne rit.
Jusqu'en 1905, la loi permettait d'envoyer les enfants à la mine. Ce n'est qu'à ce moment qu'on interdit le travail en dessous de 8 ans.
Ils s'en vont.
Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement.
Accroupis sous
les dents d'une machine, innocents au bagne, ils travaillent. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue.
Jamais on ne joue.
Ils ne comprennent rien à leur destin.
Ils ne comprennent rien à leur destin. Et la malédiction résonne. Si un bon indien est un indien mort, le bon esclave est l'esclave vivant. Notre société du profit n'a plus besoin d'envoyer à la mine l'enfant roi qui est né, bien plus rentable comme consommateur. Qu'elle est fraîche cette chair, abrutie par la pub comme déjà hachée. À vendre, espace publicitaire d'un cerveau nettoyé, pour que être devienne consommé.
Enfant.
Et l'homme lui dessina une prison.
Oh, servitude infâme, imposée à l'enfant. Travaille dans le souffle étouffant, tue la beauté sur les fronts et dans les cœurs la pensée. Travail mauvais, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Progrès, qui donne une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail haï des mères soit maudit, qu'il soit maudit au nom du travail même.
Concitoyen devient consommateur, et sans sommation ne reste que le con. Et c'est par révolte que passe révolution. Non, que procède la révolution. Car la révolte est sentiment, la révolution est raison.
Je m'éloigne de plus en plus des routes balisées de la légalité, empruntant ces chemins caillouteux allant des cimes aux précipices. Tantôt chasseur de temps, tantôt dormeur du val, je suis chassé par les gardiens de l'ordre et du fric. Je ne veux qu'être conjugué au présent, anéantir l'imparfait. Il me faut encore grimper, descendre, et puis vivre, et puis lutter. La décision, le choix, c'est aussi cela. Libre. Et selon le degré de liberté, la chasse s'organise. Le Mistral, ici et là, affole les moulins. Les Don Quichotte sont imberbes et courent la rue, se battent et s'abattent au gré du vent et de l'ordre armé. Face au vent, il faut courber les chines et résister. Résister. Nous étions ce groupe parmi tous les groupes, les bandes, les associations de malfaiteurs, bien sûr, qui chantaient la rue et qui, d'un poing rageur, défiaient l'ordre, les lois, la propriété privée, les valeurs marchandes et quelques autres sacralisées par la domination, l'exploitation.
Tu viens d'incendier la bibliothèque ?
Oui, j'ai mis le feu.
C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler.
Mais c'est un crime. Commis
tu
contre toi-même,
une torche enflammée
dans le passé.
De tout l'esprit humain, tu fais de
As-tu
la fumée.
As-tu donc oublié que ton libérateur, c'est le livre?
Les livres doivent être comme des haches dans la mer de glace de notre esprit.
Il détruit l'échafaud, la guerre, la famine. Car la science en l'homme arrive la première, puis vient la liberté.
Toute cette lumière, c'est à toi, et c'est toi qui l'éteins.
Il est ton médecin, ton guide,
voilà
ton gardien.
Ce que tu perds, le livre, est ta richesse à toi.
La vérité,
c'est le savoir,
la vertu,
le droit.
Le devoir, le progrès, la raison. Et tu détruis cela, toi.
Je ne sais pas lire.
un autre extrait de l'album « Ceux qui vivent, ceux qui luttent » que vous pouvez donc retrouver www.myspace.com/ceux qui vivent, ceux qui luttent et également sur le blog de En bas à gauche comme le reste de nos contenus, enbasagauche.wordpress.com.